Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion des personnes handicapées grâce au sport. Le handisport intéresse de plus en plus le grand public. Mais avant d'arriver en compétition avec un handicap, il y a comme un parcours d'obstacles. Cette semaine en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité paralympique et sportif français organisent l'opération Jouons ensemble pour promouvoir justement la visibilité du handisport. Alors certes, les Jeux paralympiques ont réuni plus de 4300 athlètes lors des derniers Jeux de Rio au Brésil en 2016, mais au-delà de la vitrine de ces événements internationaux, la pratique sportive à tout âge, à tout niveau, est-elle vraiment accessible ? Et surtout, peut-elle permettre aux personnes handicapées d'avoir une vraie place dans la société ? Bien sûr, on attend vos questions, vos réactions. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On va en parler avec nos invités. Laetitia Bernard, aveugle de naissance, championne d'équitation et journaliste radio sur France Inter et France Info. Oui, c'est possible, tout à la fois. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. Vous publiez « Ma vie est un sport d'équipe » aux éditions Stock. Également au téléphone avec nous, Camille Guillou, membre du comité départemental du Finistère de la Fédération française handisport. Bonjour Camille Guillou.
Bonjour à tous.
Et on sera en ligne tout à l'heure aussi avec un sportif, Abdelrahman, basketteur en fauteuil au Bénin. Bien sûr, je vous rappelle notre numéro de téléphone sur le compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Laetitia Bernard, vous avez grandi avec des parents, professeurs de sport. Est-ce que ça veut dire que malgré votre handicap de naissance, le sport, c'était comme une évidence dans votre vie, dans l'éducation que vous avez reçue ?
Oui, alors peut-être pas une pratique sportive très intense, mais en tous les cas, un minimum d'une éducation motrice, en fait. La motricité, le fonctionnement corporel, moi j'ai des souvenirs petites où mon père, on me laissait faire du toboggan la tête en bas, enfin c'était, on m'a mis sur des skis, parce que mes parents adoraient le ski à 3 ans, alors j'étais dans les bras de mon père, il était derrière moi, mais vraiment, oui, l'éducation motrice a été un fondamental, oui.
Et c'était important aussi pour mieux vous repérer dans l'espace ?
Oui, en tout cas, au niveau de l'équilibre, au niveau du mouvement en avant, de comment, effectivement. Et après, repérage dans l'espace, ça vient un petit peu plus tard en fonction des pratiques, quand on avance dans une pratique sportive plus précisément.
Ouais. Comment on monte à cheval quand on est non-voyante et comment vous avez découvert ce sport ?
Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout pour me moquer, mais on met le pied dans l'étrier, hop, on pousse sur les bras, on enfourche le cheval et on prend les rênes, dans le sens où c'est juste pour vous dire, on monte. Enfin, pareil que quelqu'un. C'est un partage de. C'est les mêmes sensations. D'ailleurs, ça va devenir une passion identique à plein de gens. On tient les rênes pour avancer. Ben, on serre les jambes. Et alors après, effectivement, c'est des questions de direction et d'orientation qu'il va falloir apprendre à gérer. Donc, on a besoin de quelqu'un qui nous donne des indications au sol, où on prend nos repères sur une piste. Au début, un rectangle, ou même tout au début, on est tenu en longe. Comme ça, on fait des grands cercles et on a juste à profiter et appréhender la sensation, le mouvement du cheval.
Oui, on donne les mêmes ordres au cheval. Est-ce qu'on peut sauter sans cheval guide ?
Oui,
un cheval
sûr.
Qui est devant le vôtre.
Ah oui, bien sûr, on peut sauter sans cheval guide. Même au contraire, c'est le cheval guide était utilisé surtout quand on enchaînait des parcours. C'était une méthode qui avait été développée, mais pour prendre de la vitesse, pour s'appuyer sur l'instinct grégaire et voilà, avancer dans la pratique et dans la technique. Mais moi, j'adore sauter. Soit, par exemple, vous mettez des obstacles un peu au même endroit sur la piste. Quand c'est un rectangle, vous la mettez au milieu du grand côté. Et puis, voilà. Soit aussi, il y a la méthode qui se développe beaucoup en ce moment avec une personne à côté de chaque obstacle qui vous appelle, en fait. Il se met, par exemple, on se dit toujours, il sera de côté. Oreille gauche, et du coup, on vise enfin, on entend la voix sur notre très légèrement à gauche, et on va viser l'obstacle, enfin, diriger le cheval vers l'obstacle. Et c'est hyper intéressant aussi cette méthode, parce qu'en termes de sensation et de précision, c'est assez intense.
Ouais. Vous êtes arrivée jusqu'au championnat de France, vous avez été championne de France. Oui. De saut d'obstacle.
Oui, en handisport, en sachant que le saut d'obstacle n'est pas discipline paralympique. Donc malheureusement, je n'ai jamais pu découvrir la compétition internationale puisqu'elle n'existe pas en handisport. Par contre, j'ai eu la chance de faire aussi l'Open de France, enfin le championnat de France des valides en toute petite division, la plus petite division, parce qu'au niveau fédéral, on a toujours d'ailleurs l'autorisation avec des dérogations, des compensations de handicap. On a le droit d'aller courir sur les petites épreuves des valides, donc avec les copains des écuries, et ça, c'était fondamental.
Et pourquoi le saut d'obstacle n'est pas une discipline olympique, paralympique.
En fait, il n'y a que le dressage. Je dirais que parce qu'on est assez peu nombreux à la pratiquer, il faudrait qu'il y ait plusieurs pays où on soit suffisamment nombreux. Il faudrait inventer un règlement qui crée de l'équité entre les handicaps de chacun. Et donc, c'est assez complexe à mettre en place. Mmh. Et puis, il y a aussi la notion de danger. Une personne handicapée qui saute, il y a le risque de chute et en fait, ça fait peur, mine de rien. Le côté voir quelqu'un handicapé qui tombe va faire plus peur dans l'imaginaire.
Ça vous énerve, vous le dites dans votre livre d'ailleurs, qu'on a toujours peur que vous tombiez alors que la chute est la même.
Mais on ne se fera pas a priori plus mal en tombant que quelqu'un d'autre. C'est assez désagréable de tomber, hein, je ne dis pas le contraire, j'aime pas ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, il ne faut surtout pas qu'il tombe, sinon ça donne... Et c'est vrai, oui, il y a vraiment cette angoisse de nous voir tomber, ouais.
Il y a des clubs spécifiques. Comment vous êtes rentré dans la compétition? Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont formés, des entraîneurs d'équitation qui sont formés à travailler avec
Maintenant, ça
des
c'est
athlètes handicapés.
Maintenant, mais honnêtement, moi, vous voyez, dans le club dans lequel je suis, aux écuries du Haut-Taquet, en Essonne.
En région parisienne. Vous continuez de monter, hein, malgré
oui,
votre
oui,
métier.
Oui. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment par connaissance interposée. La coach avait vu une personne malvoyante quelques années plus tôt, mais elle n'avait jamais donné, et puis finalement elle a accepté. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a plein d'autres moniteurs dans le club, ils peuvent tous me faire monter. C'est-à-dire, bon, ils adaptent leur pédagogie ou ils regardent un peu comment je fais, etc. Mais je monte selon les disponibilités de chacun, ils me font tous monter, et pourtant, ce sont des enseignants d'équitation oui. avant tout.
Ça veut dire que les entraîneurs apprennent en même temps qu'ils vous forment, finalement.
Oui, et surtout, pourquoi pas, mais surtout, ça veut dire qu'avant tout, on apprend à monter à cheval. Après, effectivement, c'est intéressant s'ils ont une formation un peu plus précise sur le handicap visuel, ça nous permet peut-être d'avancer plus vite ou de progresser ou de trouver des méthodes un peu moins essuyer les plâtres, on va dire. Mais moi, la coach, Muriel, celle qui m'a fait découvrir le saut d'obstacle, elle avait vu en compétition, elle avait vu des compétitions handisport, mais elle n'avait pas un diplôme spécifique. Et c'est elle qui m'a dit, je vais t'apprendre à sauter. Moi, je ne savais pas qu'on sautait avec un cheval. Et c'est elle qui a dit, bon, alors d'abord, sens bien ce qui se passe dans ce qu'on appelle dans le bassin, mets-toi en équilibre, ressens ça. Et elle a trouvé des mots sur les sensations, elle a tout adapté. Elle m'a considérée comme une cavalière à part entière. Et elle s'est dit, comment je vais lui transmettre cette passion-là oui. Et elle n'avait pas une formation spécifique, non.
Vous diriez, Laetitia Bernard, que le monde du sport est assez accueillant pour le handicap ou pas tant que ça?
C'est difficile la notion assez ou pas. Les amoureux du sport, en général, tentent de le partager. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas évident parce que, selon les profils de handicap, par exemple le mien, ça demande de l'implication, c'est-à-dire que si je veux courir, il faut que quelqu'un se mette à côté de moi, casse son allure et me guide, fasse attention à ce que je ne tombe pas sur une racine. Vous prenez un club, si la personne est en fauteuil, ça va demander des questions d'accessibilité. Donc c'est un peu toute une société, mais les gens, de manière générale, si on prend juste les personnes, en tous les cas, il y a plutôt de l'envie, oui, et quelque chose des envies de partage, oui.
Des envies de partage. De l'admiration aussi pour ce qui vous lie avec les sportifs quand on a un handicap, cette volonté de dépassement de soi, l'importance du mental aussi, parce que bien avant de faire du sport de haut niveau, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour vous, pour faire des études, accéder aux études supérieures. Je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez fait Sciences Po, vous avez fait le CFJ, excellente école de journalisme. Donc votre vie est un parcours d'obstacles en dehors de l'équitation en tant que personne non-voyante.
Mais en fait, en dehors de ces défis, ma vie est un parcours d'obstacles. Quand on n'y voit pas, si vous vous servez un thé le matin, Déjà, c'est pas, faut faire gaffe à pas se brûler, à pas faire déborder. Vous allez acheter du pain, faut faire attention de pas se prendre la poubelle devant l'immeuble parce qu'on a oublié que, enfin, on sait pas si elle est là ou pas. Donc, en fait, les petites choses, quand on traverse la rue, faut faire attention d'être sûr qu'il y a pas de voitures qui arrivent, parce qu'on les voit pas arriver. Il faut avoir faut une concentration de dingue, j'ai envie de dire. Et du coup. Finalement, tout est un petit peu plus complexe, tout corse un peu le jeu. Donc, j'ai pas eu plus la notion de défi ou de dépassement de soi pour mes études ou pour autre chose. Ça, c'est comme ça de toute façon. Ouais,
parce que vous avez aussi beaucoup été entourée d'équipes, de gens auprès de qui vous dégagez de la sympathie aussi. Vous avez énormément d'amis dans vos études, dans le monde du sport. Camille Guillou, est-ce que vous diriez que la France se situe honorablement dans les performances sportives et dans l'accès au sport pour tous dans le domaine du handisport et du parasport ?
Alors, je pense qu'on n'est pas les premiers sur ce domaine. Maintenant, il y a beaucoup de progrès et je pense que la France s'appuie sur d'autres pays, notamment les pays anglophones, pour développer un petit peu ses activités sportives. Maintenant, quelqu'un aujourd'hui qui veut faire du sport vraiment dans un club, que ce soit ordinaire ou un club handisport, il peut trouver chaussure à son pied, hein, sans faire de jeu de mots. C'est beaucoup plus facile qu'avant, notamment aussi avec les réseaux, avec Internet, avec les médias, etc.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a énormément de sports à disposition, de handisports ? On peut citer le cécifoot, hein, avec un ballon à grelot, le biathlon pour les non-voyants, mais pour d'autres types de handicaps ?
Alors, au niveau de la Fédération française handisport, il y a 28 sports qui sont organisés au niveau national, mais il y a une cinquantaine de sports qui sont proposés en fait au niveau des territoires par les structures handisport ou par les structures valides. Il y a de tout aujourd'hui. On passe des sports conventionnels comme on connaît qui sont praticables chez les valides comme chez les handis, mais ou comme les sports que vous avez cités qui sont très spécifiques, le cécifoot, mais aussi le foot fauteuil électrique par exemple sur un public plus lourdement handicapé. Il y a également les sports de nature, on a des activités de loisirs même autour de la pêche, autour du surf, autour des activités de plein air. Tout est adaptable et adapté, en tout cas, aujourd'hui, on se pose la question sur beaucoup de sports.
Ouais. Laetitia Bernard, vous racontez dans le livre que vous avez découvert qu'il existait une pratique sportive de surf pour des personnes non-voyantes.
Oui, non, mais je rejoins complètement ce que disait Camille Guillou, là, c'est que vraiment, ça s'est ouvert. Enfin, il y a de plus en plus de disciplines qui peuvent se pratiquer ou qui peuvent s'essayer. Et c'est vrai que même moi, et pourtant, je suis habituée, mais j'arrivais encore à être surprise quand j'ai su qu'il y avait le surf. Ils mettaient des vidéos et tout. J'ai mis, ils sont complètement fous. Enfin, donc même moi, j'arrive encore à en être surprise, mais je trouve ça carrément génial. L'escrime aussi, mais c'est énorme. L'escrime à l'épée, j'ai testé, c'est fabuleux. Tous les systèmes.
Comment ça fonctionne, l'escrime ?
Eh bien, en fait, l'escrime, à l'épée, on est en contact lame à lame. Enfin, les lames sont en contact. Du coup, ça permet de ressentir un peu le mouvement de l'autre. Et c'est super intéressant. Même les systèmes vous parlez du biathlon tout à l'heure, les systèmes de tir, où on peut en fait en gros viser avec les oreilles parce que y a une petite. Enfin, ça monte dans l'aigu. C'est super, c'est passionnant. En fonction du son, c'est incroyable.
Alors, vous êtes aussi journaliste sportive, Laetitia Bernard. Hein. Vous avez couvert 4 compétitions internationales paralympiques Londres, Sochi, Rio.
Et Pyeongchang.
Ouais. Quelle pédagogie pour le grand public, pour que le grand public sorte de l'ignorance ?
Au niveau des Jeux paralympiques, en fait, déjà, comment réussir à expliquer pourquoi il y a autant de catégories. Ça a toujours été la lisibilité pour le grand public, c'est complexe à ce niveau-là. Oui. Parce qu'en fait, les compètes en e-sport, enfin, ou le parasport, il y a une équité. L'idée, c'est à handicap égal, on fait un défi sportif. Que le meilleur gagne. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous mettez les non-voyants ensemble pour courir un 100 mètres et ceux à qui manque une jambe ensemble. Vous n'allez pas mettre un aveugle contre quelqu'un à qui manque une jambe. Et c'est déjà cette première pédagogie qu'il faut faire, expliquer pourquoi il y a autant de catégories en natation, en athlée, etc., selon les handicaps des gens. Donc ça a été, c'est une des premières choses importantes. Et ensuite aussi, surtout, la notion de performance, enfin, de progression dans une discipline sportive. C'est-à-dire que c'est pas juste bon, bah, c'est sympa, comme ils sont sur fauteuil ou qu'ils y voient pas, on va leur faire faire un peu de sport. Non, il y a la notion de progression, d'envie de performer, d'aller plus loin et d'aimer une discipline et du coup de vouloir en connaître, en appréhender la dimension plus technique, plus, enfin, de progresser, quoi, d'avancer, d'évoluer.
Et Camille Guillou, il n'y a pas ce danger en même temps, certes, de mettre l'accent sur la performance sportive comme n'importe quel sportif valide, mais d'en faire des héros, ça, je sais que ça exaspère certains athlètes de handisport.
Alors oui, tout à fait. En fait, ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun. Certains athlètes aiment ce côté un peu héros, un peu hors norme. D'ailleurs, pour Londres, ils en avaient fait une belle communication malgré tout là-dessus pour les Jeux paralympiques. Ça dépend de chacun. Malgré tout, je trouve que c'est une communication qui peut être intéressante pour le grand public parce que, comme Laetitia Bernard le disait, la notion de performance, elle est bien réelle. Il y a peut-être 30-40 ans, les Jeux paralympiques n'avaient pas la même saveur parce qu'il y avait moins de concurrence internationale. C'était une manifestation qui était différente. Aujourd'hui, certains, ils ont le niveau des valides.
Les lignes bougent, mais il faut quand même qu'on revienne à la pratique du sport en amont pour des gens qui ne sont pas dans la compétition, parce qu'avant d'arriver dans la compétition, de toute façon, encore faut-il avoir accès à des clubs sportifs. Et ça, c'est un vrai sujet. Laetitia Bernard, vous avez couvert, en tant que journaliste sportive, le Tour de France en suivant des étapes sur un tandem. Et vous racontez dans le livre que c'est votre plus grande expérience professionnelle. C'est un privilège que n'ont pas eu vos collègues journalistes sportifs, me semble-t-il.
Non, mais en fait, on l'a tourné en décalage. On l'a tourné un mois avant le Tour. C'était ma plus belle expérience professionnelle, une de mes plus belles maintenant, parce que j'en ai eu d'autres depuis. Mais parce que, en fait, moi, ça enlevait aussi un tabou. En tant que journaliste aveugle, je n'avais rien à apporter ou rien à faire pardon, sur une épreuve d'une telle envergure valide. Pour moi, le Tour de France, ne voyant pas ce qui s'y passait, je ne pouvais pas le commenter, je ne pouvais pas aller faire les interviews parce qu'il y avait trop de monde, etc. Donc, j'avais rien à faire en tant que journaliste sur un événement tel que le Tour de France. Or là, ça m'a donné l'opportunité d'y être, enfin, même si c'était un mois avant, mais de faire quelque chose autour de cette compétition mythique. Et puis, après, d'un point de vue sportif, c'était carrément passionnant parce que monter d'école en tandem, je ne l'avais pas fait, je ne l'avais jamais fait. Je me mettais un tout petit peu dans la peau, très peu, parce qu'on ne faisait pas évidemment toutes les distances, mais moi, c'était un bonheur.
Il y a des éléments du sport que vous percevez, que vous sentez pas forcément perceptibles pour les personnes voyantes?
Eh bien ça, je ne sais pas, puisque justement...
mais les autres vous le disent,
mais les autres, oui, c'est-à-dire que, notamment quand on faisait les périples en tandem, j'allais plus faire attention à une odeur, au vent, à une sensation, à un bruit aussi. Donc, c'est pas forcément différent, c'est juste que je vais faire peut-être attention, effectivement, à d'autres points. Donc, c'est un complément.
On parle du sport chez 7 milliards de voisins aujourd'hui, du sport pour des personnes en situation de handicap, sport de haut niveau, sport tout court, pour vivre comme les autres, pour partager des moments aussi au cœur de la société. Vos questions, vos réactions, vous pouvez nous appeler sur le compte WhatsApp. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 7 64 45 51 41. Tiens, on va donner la parole à la rappeuse L'Original K. Gros coup de colère au nom de son petit garçon autiste.
Écoutez, ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Je représente la France, je représente la souffrance, je représente la précarité des personnes handicapées. Je représente le changement du maillot bleu au gilet jaune, nous sommes passés. Maman guerrière, papa guerrier, sœurs et frères des familles concernées, nous ne nous laisserons plus faire. Et face à l'injustice, nous garderons le poing levé.
Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect. Nous ne sommes rien que nous ne considérons pas les autres avec respect. Le temps passe. La MDPH n'a pas notifié ce que la CAF n'a pas payé. Le trésor public va l'encaisser. Noyé sous une tonne de paperasse, c'est toujours pas plus avancé. Pas de place, pas de budget, le droit à l'école est bafoué. Ton AVS s'est pas pointé, le téléphone pleure. Sophie Cluzel nous a bernés, car ce n'est pas en 48 heures et suite à ton appel que la situation s'est arrangée.
Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité. Ne pas respecter les droits des adultes handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité.
Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect. Nous ne sommes rien tant que nous ne considérons pas les autres avec respect.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et veut nous appeler pour nous parler ou témoigner ou réagir sur la pratique du sport comme facteur d'inclusion sociale pour les personnes en situation de handicap. On en discute avec Laetitia Bernard qui publie « Ma vie est un sport d'équipe ». Laetitia Bernard, vous nous faites partager votre passion pour les compétitions d'équitation. Parallèlement, vous avez un métier, vous êtes journaliste sportive, ça tombe bien. Et vous êtes non-voyante. Et puis également, Camille Guillou est avec nous au téléphone. Camille Guillou, vous êtes membre du comité départemental du Finistère de la Fédération française Handisport. On accueille une auditrice qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Faouziatou.
Oui, bonjour.
Faouziatou, vous habitez à Abidjan, c'est bien ça ?
Oui, je suis à Abidjan depuis plus d'un an.
Vous êtes en situation de handicap, Faouziatou ?
Oui, j'ai été amputée de ma jambe droite en 2012 après un accident. Mm-hmm.
Et vous pratiquez un sport ?
Oui, je pratique le basketball. En fait, je le pratiquais déjà avant mon accident. Donc, c'est une suite pour moi, en fait, le fait de le faire en fauteuil roulant.
Ça a été compliqué de trouver un club, de continuer à jouer au basket ou pas pour vous, Abidjan ?
Non, en fait, j'ai commencé le basketball en fauteuil roulant au Bénin, plus précisément à Cotonou. Heureusement, à Cotonou, il y avait déjà un club, Lyon Handisport. C'est un club mixte, donc je m'entraîne avec des hommes et des femmes également. Ça, les débuts ont été un peu difficiles parce que bon, il fallait que je m'adapte au fauteuil. C'est un nouvel matériel que je ne maîtrisais pas. Mais heureusement, mes coéquipiers étaient disponibles et l'entraîneur également. Ils m'ont aidé. J'ai eu des entraînements personnels pour vite accélérer le niveau. Mmh.
Voilà. Ça tombe bien que vous nous appeliez Faouziatou parce que effectivement, si vous avez joué au basket au Bénin avant d'habiter à Abidjan, en Côte d'Ivoire où vous êtes maintenant, vous connaissez forcément Abdelrahman qui est avec nous au téléphone.
Bien sûr.
Bonjour Abdelrahman.
Bonjour, au plaisir d'être sur RFI. Bonjour Faouziatou.
Bonjour Président.
Eh oui, le parasport, hein. Beaucoup de gens se connaissent. Vous êtes président du comité paralympique du Bénin. Vous représentez toutes les disciplines de parasport et vous êtes vous-même joueur de tennis de table et de basket depuis plusieurs dizaines d'années, Abdelrahman.
Oui, effectivement, je suis le président du comité national paralympique depuis 2018. Mmh. Et je pratique les deux disciplines comme vous venez de les indiquer.
Vous jouez toujours dans l'équipe nationale de basket ?
Oui, je joue toujours et heureusement avec nous tendons un peu vers la fin de la pandémie, on a arrêté les activités. Tous les clubs s'entraînent, nous on s'entraîne les jeudis soir et les dimanches matin.
Deux entraînements par semaine. Alors, contrairement à Faouziatou qui nous disait qu'elle jouait déjà au basket avant d'avoir son accident et de perdre l'usage de sa jambe, vous êtes en fauteuil depuis l'âge de 5 ans à cause d'une polio. Du coup, comment vous êtes arrivé au sport ?
Je suis arrivé au sport. D'abord, il faut dire que au cours primaire, pour la première fois, j'ai senti que j'étais un peu différent des autres enfants, des autres écoliers. Parce que lorsqu'il fallait faire le sport, le maître me disait de rester en classe et de garder les affaires. Et ça s'est poursuivi jusqu'au collège. Et arrivé au collège, moi, j'ai eu un professeur de PS extraordinaire qui, au lieu de me dispenser, m'imposait d'ailleurs d'être sur le terrain. Oui. Et de suivre mes camarades en activité et toutes les interrogations étaient écrites pour me permettre de décrire quand même ce que les gens font sur le terrain.
Oui, c'était déjà un énorme progrès pour vous d'inclusion.
Voilà. Et voilà, et pour prendre la vitesse, il me disait d'aller au départ et de prendre mon tricycle et prendre mon temps. Donc moi, j'avais une note au sport au collège, ce qui m'a renforcé à me retrouver avec des amis au nord à Parakou là-bas pour déjà commencer le basketball, mais en tricycle. Donc c'était extraordinaire, une expérience extraordinaire. Vous allez sur le terrain avec le pneu avant de votre tricycle en forme, mais vous repartez avec la roue en 8, mais ça a été extraordinaire. Donc c'était l'émulation, c'était le début, et passionnant. J'ai vite découvert cela comme vraiment un puissant moyen d'inclusion sociale.
Oui, on comprend en vous écoutant Abdelrahman que jouer au basket, quand on n'a pas l'usage de ses jambes, c'est très technique. Un fauteuil de basket, ça coûte combien ?
Un fauteuil de basket, c'est des millions en CFA.
Plusieurs milliers d'euros.
Voilà, plusieurs milliers d'euros. Et c'est vrai, il y a des répliques qui se fabriquent du côté de la Chine. À prix très réduit, mais voilà, un fauteuil de basketball, lorsque vous en parlez ici, les autorités, ils se sortent de leur fauteuil, parce que pour elles, c'est très cher. Effectivement, c'est très cher pour nos petits porte-monnaies.
Ça veut dire que, du coup, vous êtes parfois obligé de vous contenter d'adapter un fauteuil roulant banal.
Effectivement, nous avons commencé le basket fauteuil ici avec des fauteuils médicaux que nous réadaptons. Donc après la réadaptation, ces fauteuils, au lieu de peser 4-5 kilos normalement, arrivent à peser 15 kilos. Je crois que Fawziat, du côté d'Abidjan, sait de quoi je parle.
Oui.
C'est très très difficile. Donc lorsque vous devez sortir, aller à des compétitions à côté au Nigeria, où des compétiteurs nigériens ils débarquent sur le terrain avec des fauteuils dans le carton. Ça veut dire que là, le combat psychologique, il est gagné. Les gens déballent leurs fauteuils roulants professionnels amenés tout droit de l'Europe sur le terrain, alors que nous sommes là avec nos catapultes anti-griffes, vous voyez. Lorsque le mec il démarre pour une contre-attaque avec un fauteuil qui fait 5 kilos, vous ne pouvez pas le suivre avec un fauteuil de 15-20 kilos.
Vous ne pouvez pas rivaliser. La performance sportive des basketteurs en fauteuil, pardonnez-moi mes questions naïves, mais il faut quand même bien réexpliquer à nos auditeurs que vous driblez tout en faisant avancer le fauteuil et vous lancez le ballon dans un panier qui est à la hauteur des valides. Le panier n'est pas descendu comme hauteur, il n'est pas plus bas, alors que vous êtes assis.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Et lorsque j'ai eu la chance de participer à Bonn récemment, à des échanges, j'ai posé la problématique. Parce que lorsque vous êtes dans un fauteuil roulant, vous perdez en hauteur, en taille. Mais nous sommes obligés, et là, le mouvement paralympique l'accepte ainsi, nous sommes obligés de jouer sur un terrain ordinaire que les personnes non handicapées utilisent. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes en fauteuil roulant, vous devez maîtriser le fauteuil, vous devez dribbler, vous devez assurer le circuler, rouler, vite dribbler, vite aller vers le panier adverse et faire le panier. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais c'est tellement excitant et tellement motivant que vraiment empêcher une personne en situation de handicap qui fait le handi basket, empêcher de faire le basket fauteuil roulant, c'est vraiment lui ajouter à cette peine, quoi.
Est-ce que vous diriez que les pays anglophones du continent africain sont plus avancés, qu'il y a plus d'adaptation, plus de lutte contre la stigmatisation, plus d'infrastructures aussi ?
Oui, effectivement, les pays anglophones, pour ceux qui ont la chance d'aller, pas des Béninois, qui ont la chance d'aller au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en train de parler du Comité national paralympique. Nous peinons à avoir les fédérations par discipline. Mais au Nigeria, à côté, ils sont très nombreux. Et puis, les infrastructures sont à leur disposition. Et les autorités aussi, c'est vrai, aujourd'hui au Bénin, nous sommes en train de réfléchir sur la politique nationale du sport et une loi sur le sport. Aujourd'hui, nous avons la chance que, au lieu de parler de fédération handisport dans ces documents officiels-là, le gouvernement a déjà fait un grand pas en avant, en accord vraiment avec le Comité national paralympique, pour introduire dans les documents officiels le Comité national paralympique avec l'obligation de nous donner les moyens de travailler. Donc nous tendons vers le niveau des pays anglophones, mais c'est le jour et la nuit, quoi.
Eh oui, la route est encore longue, même si ça a beaucoup changé par rapport à votre enfance. Abdelrahman, j'ai une dernière question pour vous. Je vais poser la même, évidemment, à Fawziatou. Qu'est-ce que le sport a changé dans votre vie?
Pour moi, je suis que c'est la même chose pour les autres personnes handicapées qui font le parasport. Le sport m'a permis, moi, d'approprier mon moi. Vous voyez, le sport m'a permis d'avoir une identité positive et de lutter contre les stigmates. Vous voyez, le sport m'a également permis, me permet de m'épanouir. Le sport me permet mon intégration, mon inclusion sociale. Le sport me donne une autonomie. Le sport me donne une bonne santé, hein, une bonne qualité de vie, le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Le sport, sur le plan psychologique, nous permet d'avoir une prise de conscience de nos possibilités, nos limites, nos faiblesses. Et, bref, une réconciliation avec notre propre moi, quoi. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Pour la personne handicapée, oui. Non handicapée, je dis le sport est un bienfait. Mais pour la personne en situation de handicap...
Ouais. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, hein, qui sont en situation de handicap et qui aimeraient... Alors d'ailleurs, ça pousse au standard, ils aimeraient prendre la parole, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas accès au sport, et ça, il faut qu'on en parle aussi. Merci beaucoup, Abdelrahman, président du Comité paralympique du Bénin. Fawziatou, vous, en tant que basketteuse en fauteuil à Abidjan, avec le recul, qu'est-ce que le sport vous a appris sur vous-même? Comment vous vous êtes révélé et comment vous avez trouvé votre place dans la société?
Ok, en fait, le sport m'a permis d'avoir un peu plus de confiance en moi. Grâce au sport, j'arrive à m'exprimer, à me faire entendre. Je dirais, grâce au sport, il y a certaines portes qui ont pu s'ouvrir que je ne pouvais pas imaginer. J'ai eu la grâce d'avoir été choisie pour représenter la jeunesse de mon pays lors de l'Assemblée parlementaire paritaire à CPI en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ça m'a permis de défendre les droits des personnes handicapées. Ça, je ne le savais pas avant de devenir handicapée. Une fois handicapée, j'ai compris que c'est des personnes qui ne sont pas souvent beaucoup entendues.
Oui.
Donc, grâce au sport...
Comme le disait Abdelrahman, vous êtes aussi devenue une personnalité politique, finalement, de par votre engagement. Merci beaucoup, voilà. Fawziatou. Je suis désolée, on va donner la parole à d'autres auditeurs. Laetitia Bernard, vous êtes toujours avec nous. Hein. Le micro est ouvert, vous prenez la parole quand vous voulez. vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Aimé Raymond nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Aimé Raymond.
Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes en direct, on vous écoute.
D'accord. Bon, moi je suis devenu en situation de handicap suite à une poliovirus sauvage à l'âge d'un an. Donc j'aimais déjà le foot étant tout petit. Bon, ça fait qu'avec les béquilles, je joue avec mes camarades tout petits. Ils n'avaient pas très peur de me faire mal parce que j'étais très vaillant. Mais lorsque, par exemple, les matchs devenaient un peu plus sérieux, lorsqu'il y avait, par exemple, des défis interquartiers pour le foot, c'était compliqué de m'aligner. Donc, à l'école, la pratique sportive, je faisais des exercices simples parce que je participais à tous les cours de sport. Alors, mon professeur de sport me donnait très souvent le cahier de tests pour noter un peu tous les exercices, les absences et autres. Bon, plus tard, à la fac, je m'intéressais aussi un peu à la pratique sportive. J'étais approché par des amis et il y avait des présélections de courses de vélo dans le cadre des Jeux universitaires paralympiques. Donc, j'ai pas pu faire de bonnes performances. Vu que j'avais déjà abandonné un moment, je suis tombé et puis bon voilà, j'ai abandonné. Mais ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis team manager et on a une équipe de footballeurs amputés, d'Off AFC de Douala. Donc c'est une équipe, on travaille régulièrement.
Et vous transmettez ce que vous avez appris dans votre pratique sportive finalement?
Oui, en fait, voilà. Donc, c'est un peu comme un facteur d'émulation. Oui.
Bah, comme tout sportif. Comme tout sportif, finalement, ce que vous racontez. Hein. Mais ce que j'entends, moi, Aimé Raymond, hein, c'est que vous aussi, il y a un prof de sport hein, qui a ouvert la porte à un moment donné. Laetitia Bernard, oui. Est-ce que vous, vos parents étaient profs de sport, mais vous observez ça aussi, qu'il y a des adultes sur le chemin de l'enfance qui, à un moment donné, vont permettre d'arriver au sport, y compris au sport de très bon niveau.
Alors, ce sont en fait les personnes qui, de manière générale, vont, au lieu de dire « alors ça, on ne peut pas, ça, ce n'est pas possible », ils vont dire « alors comment on pourrait faire pour que ?» Et c'est oui. vraiment ça. C'est, si on regarde comment la chose est possible, qu'est-ce qu'on peut imaginer là, les intervenants le disent clairement. C'est le jour où leur prof leur dit bah, « viens, fais au moins tel exercice ou prends un peu de vitesse en faisant... » Et au fur et à mesure, on imagine des choses et on avance.
Ouais, et ça commence donc par du sport avec les valides. Merci beaucoup, Aimé Raymond. Mimosette est en ligne avec nous. Est-ce qu'on a Mimosette ou Franck Mimosette, vous êtes para-athlète en haltérophilie. Vous êtes à Nanterre, en région parisienne. Bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour aux
auditeurs. On vous écoute. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit problème avec votre ligne téléphonique. On va essayer de vous rappeler, Mimosette. Franck, sinon, est avec nous à Bukavu, en République démocratique du Congo.
Oui.
Franck, bonjour, vous êtes déficient voilà. visuel.
Oui, bonjour. Oui, je suis déficient visuel. Et comme je l'ai dit à l'antenne il y a quelques instants, je pratique du footing qu'une fois par semaine le dimanche parce que c'est un peu l'occasion qui m'est donnée. À Bukavu, il n'y a pas vraiment beaucoup de sport que les personnes qui sont déficientes, soit motrices ou déficients visuels, puissent pratiquer. Alors le footing, c'est un peu la seule activité que je puisse faire. Je le fais chaque dimanche, je vais avec l'un de mes cousins qui se place toujours à côté de moi comme un repère parce que je dois trouver un repère. Et comme ça, je fais des allers-retours réguliers oui. pour un peu garder la forme.
Il vous tient par le bras, c'est ça? Il vous donne le bras, Franck?
Non, en fait, je ne vois pas si flou que ça. Donc, oui. je ne vois pas si noir que ça, je vois un peu flou. D'accord. Et je tiens juste à côté de moi pour que je puisse garder... un angle, un repère pour que je ne puisse pas me perdre. Quoi.
Mais si je
et
comprends bien.
Ça, vous... faire des allers-retours.
Si je comprends bien, Franck, vous avez 26 ans, vous aimeriez pratiquer plus de sport.
Oui, c'est ça, bien sûr. Mais les infrastructures ne sont pas. Il n'y en a pas à Bukavu, pratiquement. Bon, quand il n'y en a pas. Même le handisport n'est pas développé. Je crois qu'il n'y a que récemment qu'il y a eu une association de basketteurs handisport qui essaie un peu de se développer. Mais globalement, il n'y en a pas. Donc, on essaie de faire avec le peu qu'on a.
Merci, Sport. Merci, Franck, de nous avoir appelé. On retrouve Mimosette qui nous appelait de Nanterre.
Oui, bonjour, Emmanuel, et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Mimosette.
Oui, je disais que j'étais un peu dans la même lignée que Raymond qui a appelé là tout à l'heure de Douala. En fait, moi, le sport, je l'ai découvert à l'université. Parce qu'au lycée, en fait, j'étais l'élève qui gardait les sacs des camarades qui allaient faire le sport. Donc, moi, le sport, je l'ai découvert à l'université au travers des jeux universitaires. Et à l'époque, je faisais les 800 mètres sur tricycle. Parce qu'en 2008, qu'on me parle de l'haltérophilie. Donc, depuis 2008, moi, je fais de l'haltérophilie en e-sport ou... de haut niveau, voilà.
Donc le soulevé de poids, vous vous entraînez 5 jours sur 7?
Oui, je m'entraîne 5 sur 7. Ça, c'était avant la pandémie du Covid, parce que là, actuellement, ma salle, elle ouvre 3 fois dans la semaine.
Bien sûr.
Donc, voilà, oui.
Quand vous parlez de haut niveau, jusqu'où vous avez pu aller, Mimosette?
Là, en 2019, j'ai fait les championnats du monde. Enfin, j'ai fait beaucoup de compétitions au niveau international. J'ai fait les Jeux du Commonwealth, les Jeux africains. J'ai fait les FASA de Dubaï. Donc, c'est vraiment le haut niveau, quoi.
Ouais. Formidable. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Mimosette. C'est incroyable, hein, tous ces témoignages, Camille Guillou, parce que d'abord, ils nous disent tous qu'au départ, c'était mal parti, finalement. Hein. Je gardais les sacs de sport des autres. Et puis, il y a cette envie d'aller au-delà, de forcer aussi un peu les portes.
Bah, Vous savez, moi, par exemple, dans mes études personnelles, au départ, je voulais être prof de PS dans les établissements. Et au final, en faisant un stage, je me suis rendu compte que les enfants n'avaient pas envie, que c'était forcé, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu du handicap, parce que j'étais certaine d'avoir des gens qui avaient envie. Et donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable d'adapter et de creuser les ménages pour des gens qui ont envie que des fois, quand c'est un peu forcé. Donc, je pense que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu valide. Des enfants commencent beaucoup dans le milieu valide jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans. Et après, c'est là que l'écart se creuse en fait en termes de capacité motrice, où on se retrouve plus sur le banc. Cette notion de compétition que j'entendais tout à l'heure sur les sports collectifs où quand il faut gagner, on met la personne en situation de handicap de côté pour un petit moment. Et c'est là que l'handisport en fait intervient parce qu'on a des écoles de sport qui permettent de découvrir la pratique multisport et permettent aux enfants en fait de se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils voudront faire par la suite.
Est-ce que aujourd'hui il y a encore quand même une véritable autocensure de la part de personnes en situation de handicap, notamment aussi parce que elles aimeraient faire du sport avec des personnes valides?
Oui, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a celles qui seront convaincues que tout le temps il faut aller chez les valides parce que il faut absolument avoir de l'inclusion à 100%, et celles qui vont accepter que en fait l'inclusion dans un club handisport fait partie d'une inclusion sociale de par la mixité des handicaps, de par la pratique partagée aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus. Ça dépend aussi de l'acceptation de chacun de son propre handicap et de savoir si on est à l'aise avec tout le monde, si on est à l'aise plutôt avec un public. C'est très personnel comme choix.
Laetitia Bernard, pour ce qui est de l'équitation, c'est vrai que vous avez toujours travaillé avec des personnes qui n'étaient pas en situation de handicap, mais ça dépend aussi un peu des disciplines. Si on est dans une équipe de cécifoot, si on veut aller en haut niveau, il faut être dans une équipe qui partage le même handicap.
Pour le cécifoot, enfin pour les sports dédiés, je pense à la boxia, je pense au goalball, etc. Oui, bien évidemment. Par contre, mais il n'y a pas de il faut, effectivement, c'est aussi après un choix. Par exemple, si vous voulez faire de la course à pied, ça change pas grand-chose d'être avec des non-voyants ou avec des... C'est vraiment un peu comme on veut, ou avec des valides. Bon, pour les malvoyants, faut un pilote, faut un guide. Mais c'est vraiment... Le vrai, entre guillemets, je dirais, problème de fond, c'est de se dire, est-ce que le club à la porte duquel on va frapper va bien vouloir nous prendre ?
Exactement.
C'est ça le plus dur. Et c'est de trouver un club... Souvent aussi, c'est ça avec le handicap, c'est que... Le club qui va bien vouloir vous prendre, genre il va être à 50 minutes de chez vous. Ou c'est pas, enfin voilà, c'est là où on peut encore, je pense, gagner du terrain et améliorer les choses. C'est pas de se dire mais à côté de moi ils en font pas pour les unijambistes, ou ils font pas tel sport pour les aveugles. C'est un peu, c'est là où ça me gêne. C'est enfin où c'est encore, il y a du travail à faire. C'est pouvoir pratiquer. Près de chez soi. Pourquoi c'est important aussi ? Parce que près de chez soi, tout simplement, on va se faire des amis du quartier. Et après, on va aller boire un café en terrasse. Maintenant que c'est rouvert, c'est formidable. Enfin, il y a aussi tout ce côté-là derrière qui est important, quoi.
Ça, ça a été votre parcours dans le sport, Laetitia, parce que vous avez fait de l'équitation de haut niveau, mais vous pratiquez aussi de la natation. Vous avez une vie dans le sport.
Ce soir, on reprend les entraînements de course à pied au stade, là, sur la piste. Mais c'est à 20 minutes de chez moi, donc c'est génial. Il y a des gens qui habitent dans mon quartier que je peux revoir autrement. Quand on est confiné, on va courir avec un de mes voisins, enfin, qui habite à deux rues, parce qu'il est dans le même club. Donc oui, il y a toute cette dimension qui est importante. Oui.
On a Ousmane à Marois. On va le prendre pour conclure cette émission. Est-ce qu'on l'a au téléphone ? Non, il a raccroché. Bon, en tout cas, il nous disait qu'il est à Marois, si je retrouve son message sur l'écran. De mémoire, il nous disait qu'à Marois, aucune considération du handisport ici à Marois. Ousmane a 27 ans, il est président d'une association de personnes handicapées. On monte des projets, nous dit Ousmane, comme des mini tournois de foot, mais les communes, le ministère ne nous soutient pas. C'est bien passé comme message. Il y a aussi Aboubacar, qui est guinéen, qui est à Lyon, qui nous dit, grâce au cécifoot, j'ai une vie sociale, j'ai des amis, j'entretiens ma santé. Alors, aujourd'hui, vous êtes journaliste sportive par ailleurs, Laetitia Bernard. Le parasport, il y a encore trop peu de couverture dans les médias ou pas, selon vous ?
Disons qu'il y a une belle couverture sur les Jeux paralympiques et puis après, pouf, plus rien.
Il n'y a plus rien.
Voilà. Donc, ouais. Mais il y a le côté sportif de haut niveau. Donc, on parle des Jeux. On pourrait aussi parler des championnats du monde, des championnats d'Europe, des différentes disciplines. Mais aussi, peut-être, je pense qu'on gagnerait à mettre en avant le côté sport ensemble.
Enfin,
loisir, quoi. Simplement pratique sportive, comme quand vous avez des personnes en fauteuil qui vont courir le marathon de Paris, un tout petit peu en décalé, mais avec le même peloton, finalement, qui vont vivre la même expérience que les milliers de personnes amateurs qui vivent cet événement hors norme.
Sans objectif de compétition, c'est ce dont ont témoigné certains de nos auditeurs, d'ailleurs. Dans votre métier de journaliste, Laetitia Bernard, est-ce que le sport de haut niveau a encore de la place? Vous continuez à vous entraîner ou pas? Pour l'équitation?
Non. Enfin, je monte à cheval régulièrement parce que j'adore ça, mais j'ai vraiment levé les pieds sur les compétitions. Ouais.
Et vous, je ne vous ai pas posé la question, finalement. Comment le sport a changé votre vie? Est-ce que le sport vous a permis de devenir journaliste sportive?
Oui, alors on ne peut pas dire que le sport... Enfin, je veux dire que le sport fait partie de ma vie, puisque depuis que je suis petite, il m'a ouvert énormément de portes, puisque justement, quand j'ai commencé à gagner des médailles en équitation, j'ai rencontré des journalistes, j'ai pu discuter, j'ai pu aussi découvrir ce métier par ce biais-là. Et puis le sport, après, moi, me donne beaucoup d'équilibre et de force à titre personnel. C'est bon pour la santé, ça me permet de manger des gâteaux. je plaisante, mais c'est un tout, c'est un vecteur d'épanouissement... Et les valeurs du sport en dehors de... Pas que sur la question de performance, quoi. Le sport fait beaucoup de bien, de la même manière qu'une activité artistique, comme la musique ou quoi. Mais
il faut vous lire, en tout cas, Laetitia Bernard. Il faut lire votre livre « Ma vie est un sport d'équipe » aux éditions Stock. Et c'est une publication également Radio France. Merci à vous, Camille Guillou, membre du comité départemental du Finistère de la Fédération française handisport. Et merci à Abdelrahman qui était en ligne avec nous du Bénin. Merci à vous tous, bien sûr, les voisins, les voisines, pour vos nombreux témoignages. Demain, 7 milliards de voisins parlera éducation, fonctionnement du cerveau, comment les enfants apprennent à parler. On va décrypter les mystères de l'acquisition du langage qui conditionne ensuite tout le reste. Dans quelques instants, le journal, ça sera juste après Ata Adwa. Sana wodi yana na mama fili e akadwa and I want on a movie where you part one you're killing me
fuck that akadwa and what you doing can't what way na minjuni you at mona na luwi what's am I doing the way you are in me akadwa and what you doing can't what way na minjuni you at mona na luwi what's am I doing the way you are in me. Killing me, yeah. Oh, moving feet. Yeah. You fell in love with me for a long time. That's why I adore you. That's why I love you.
de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr, avec l'équipe qui gagne. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Toutes nos émissions, bien sûr, sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. À demain.